chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne « À votre avis » sur VO Afrique. Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion, ce débat durant lequel nous allons vous appeler afin que vous puissiez participer au sujet de la journée. Le sujet de la journée de ce vendredi, c'est l'Afrique et les donateurs étrangers. 2,4 milliards d'euros ont été promis au G5 Sahel. Les pays africains du G5 participent à 13% de leurs besoins. L'Union africaine dépend également des donateurs étrangers pour 54% de son budget. La question c'est, qu'est-ce que vous pensez de cette dépendance financière? Et selon vous, faut-il continuer ainsi ou changer la donne? On aimerait bien avoir des idées de votre part, savoir comment ça pourrait fonctionner en Afrique sans toutes ces dépendances financières. Vous pouvez appeler en direct au 001-202-205-26-33. Je répète, appelez-nous au 001-202-205-26-33 pour participer à cette émission. Alors l'on sait que hier à Nouakchott, les partenaires du G5 Sahel étaient donc réunis et ils ont porté à 2,4 milliards d'euros leur aide pour une quarantaine de projets de développement visant à endiguer les violences djihadistes dans le sud du Sahara. Et nous avons donc déjà des auditeurs en ligne. On va en prendre un tout de suite. On a Pablo Escobar. Pablo Escobar qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir Pablo, comment ça va?
Je vais très bien. Et chez vous aussi, aux États-Unis?
Ça va très bien. C'est un plaisir de vous entendre. À vous la parole.
Vraiment, ça fait un peu belle là. Okay. Je vous remercie d'avoir me donné la parole. Ce que moi je peux vous dire d'abord par rapport à l'institution africaine, comme j'ai dit dans mon commentaire, l'Afrique, les institutions africaines existent par le nom. Si on prend d'abord au sommet, avant de descendre d'abord avec les subordonnés, on va dire d'abord que l'Union africaine. L'Union africaine, moi je peux vous dire que l'Union africaine existe par le nom. Mais en application, en tant que l'Union africaine n'existe pas. L'application de l'Union africaine n'existe pas. Je vais vous dire les causes et vous allons voir aussi réellement ce que je vous dis, que l'Union africaine existe par le nom, mais pas par le fonctionnement de l'Union en tant que l'Union africaine. L'Union africaine est dépendant 56% de contribuables étrangers et 44% pour les États africains. Pourquoi cela? On ne dirait jamais que l'Afrique est un pays, un continent qui n'est pas riche. Les dirigeants africains, moi j'appuie d'abord les fils dignes de l'Afrique. C'est les fils dignes de l'Afrique qui fait que l'Union africaine...
Allô? Allô? Ah, on a été coupé, donc c'était Pablo qui critiquait un petit peu le fonctionnement de l'Union africaine. L'Union africaine qui actuellement est en train justement de se réformer. On vient de recevoir sur notre Facebook en direct le commentaire de Lukman Taïrou qui est au Mali. Il y a son numéro de téléphone également, donc pour qu'on puisse l'appeler, mais il faut accéder, bien entendu, je dis ça à la production, sur le site, donc sur notre Facebook, pour pouvoir l'appeler. Alors lui, il pense, Lukman, que l'argent ira directement ailleurs et non pas là où il est censé aller. Donc ça, c'est son point de vue à lui. On a un autre auditeur en ligne. On a Thierno Diallo à Conakry, bien sûr. Bonsoir Thierno, comment ça va?
Oui, bonsoir Nathalie et bonsoir à l'ensemble des auditeurs de tous les VO Afrique.
Très bien, à vous la parole, Thierno.
Merci. Moi, ce que je pense de ce donateur de pays étrangers, ça prouve que toujours l'Afrique vit toujours sous la colonisation des anciennes puissances coloniales, parce que c'est la méthode qui a changé, mais en réel, tant que l'Afrique tend la main aux pays des anciennes colonies, l'Afrique ne sera pas indépendante. Parce que si vous voyez dans certains pays, africain, même les élections locales, ça se finance par les bailleurs de fonds ou bien les institutions européennes, que ce soit l'Union européenne ou bien la France et autres. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Ça ne rend pas les Africains, la nouvelle génération africaine, d'être fiers de leur pays. C'est quelque chose qui indigne tout le monde, parce que si vous voyez, l'Union africaine est financée par d'autres institutions internationales, c'est quelque chose qui fait honte. Mais le problème est que jusqu'à présent, les dirigeants que nous avons, ils sont toujours là, prêts à accepter et à tendre les mains. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour changer la donne et pour faire le mécanisme, créer des choses positives pour que l'Afrique arrête ses arts de pratique à l'endroit des autres grandes nations. C'est quelque chose qui est très, très, très grave. Le siège de l'Union africaine a été offert par la Chine. Vous voyez, tout récemment, on nous parlait d'espionnage et autres. C'est tout à fait possible parce que le bâtiment a été construit par eux-mêmes. Donc, nous vivons toujours comme des pays, comme des petits États qui n'ont pas autonomes. On dirait que nous sommes toujours des régions qui sont toujours colonisées. C'est quelque chose qui est très grave. Il faut que les jeunes...
Merci Tierno. Tierno, rapidement, je voudrais... Est-ce qu'il est encore avec nous, Tierno? Oui, Tierno, rapidement, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé des élections qui seraient éventuellement financées par des pays étrangers. Donc, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la République démocratique du Congo qui, elle, a dit qu'elle ne voulait absolument aucun financement extérieur pour financer ses propres élections? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou non?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai salué dans certains médias. Je suis toujours opposé aux décisions du régime Kabila, mais ça, automatiquement, j'ai apprécié. C'est la même chose aussi avec Yahya Jammeh en Gambie. Il a dit non aux donateurs étrangers, non aux appuis de grandes puissances étrangères pour organiser les élections nationales. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié par la nouvelle génération africaine. Il faut que les autres pays aussi entament les pas. Si vous voulez organiser des élections chez vous, dans votre pays, il faut que vous les financez entièrement. N'étendez pas les mains aux autres pays. Ce n'est pas quelque chose qui nous rend fiers de nous-mêmes. C'est quelque chose qui indigne tout le monde, mais ils sont là à continuer cette pratique. Nous félicitons le gouvernement de la RDC qui a vraiment mis la main à la poche pour financer leur propre élection au lieu de tendre les mains.
Tierno, on va vous quitter. Un grand merci, Tierno, pour votre point de vue. On a Prosper Yesufu Oyeton qui est au Bénin. Et il parle d'imbroglio. Prosper, bonjour, comment ça va?
Bonjour, bonsoir, la VOA.
On vous écoute.
Alors, oui, justement, vous savez, je parle d'imbroglio, c'est clair, c'est de l'imbroglio, c'est de l'imbroglio total au niveau de l'Afrique elle-même, au niveau des organisations qui sont censées organiser en quelque sorte, en tout cas être les représentants de vivre ensemble, en quelque sorte, en Afrique, vous savez. Bon, moi, je dis simplement que l'Afrique veut, en réalité, faire des omelettes sans pouvoir casser des œufs. Oui, parce que elle-même, l'Afrique dit qu'elle veut sa liberté, elle veut son autonomisation, mais pourtant, elle ne veut pas oser, elle ne veut pas évoluer dans un sens où on dise que oui, vous aussi, vous êtes désormais responsable de vous-même. Parce que quand vous parlez, par exemple, de l'exemple de celui qui a juste parlé maintenant, où la RDC refuse de l'aide internationale pour pouvoir organiser elle-même ses élections, vous savez, il y a une chose, l'idée est très belle, mais l'autre, c'est que est-ce que vous n'acceptez pas cela juste pour pouvoir mettre en place vos idéaux, votre stratégie pour pouvoir vous imposer dans votre pays? En fait, il ne suffit pas simplement de dire que nous sommes libres, mais est-ce que vous aussi, vous ne vous accaparez pas de cette économie et vous n'en faites pas profiter à votre population? Parce que, oui, nous voulons que nous ayons tous une autonomisation économique, une autonomisation politique, mais que cette autonomisation soit au profit de la population. Parce que c'est ce dont on a besoin en Afrique. On n'arrive pas à comprendre que cette union africaine, cette soi-disant union africaine, parce que les gens ne sont pas concrètement unis dans cette union africaine, parce que si vous êtes vraiment unis, vous devez pouvoir réfléchir aux problèmes économiques, politiques et aussi aux problèmes de gestion de votre Afrique et pouvoir prendre des décisions unanimes et pour que l'Afrique puisse évoluer. Mais non, ce qu'on constate, c'est des stratagèmes de politiques personnelles, personnalisées, des gens qui veulent des intérêts qui ne vont que dans un sens unique. Il n'y a pas la population qui soit impliquée dans la chose. Vous savez, l'Afrique elle-même tue l'Afrique. C'est ce que j'ai dit souvent. L'Afrique tue l'Afrique. Il va falloir que les gens prennent la décision. J'aime pas trop donner cet exemple pour finir. J'aime pas trop donner cet exemple. J'ai dit, si aujourd'hui, je ne suis pas trop fanatique, mais si aujourd'hui, le président libyen, le guide libyen, et Mouammar Kadhafi est parti, a pu être abattu, c'est juste parce que l'Afrique a refusé d'être unie entre-temps. Vous voyez. Donc, je crois... C'est l'union, c'est de l'union qu'on a besoin. On a besoin de véritablement, on a besoin d'une véritable union africaine.
Alors Prosper,
nous d'une institution épouvantail qui représente l'Occident, pensant que c'est qu'elle représente l'Afrique.
Prosper, j'ai une question à vous poser. Hein, vous savez que pour le G5, l'Union européenne et la France sont les principaux contributeurs au plan financier. C'est environ 800 millions d'euros pour l'Europe, 500 millions d'euros pour Paris et l'Arabie Saoudite aussi a mis 150 millions de dollars, hein, dont 50 millions de dollars pour la force conjointe anti-djihadisme. Mais il faut savoir que dans ces dons qui ont été proposés hier, c'est surtout pour les programmes de développement et parce que ça a été défini par le G5 Sahel, hein, le programme notamment de développement d'urgence qui est axé sur trois priorités: l'hydraulique, la gestion des conflits intercommunautaires, la sécurité intérieure. Tout ça pour dire que par exemple l'Agence française de développement a inauguré il y a quelque temps, en avril, je crois que c'était en avril dernier, une centrale solaire et thermique en Mauritanie et également un centre de santé maternelle. Bon, on sait que ça se fait régulièrement. C'est de cela dont on parle. Un autre auditeur a parlé tout à l'heure du siège de l'Union africaine qui a été fait par les Chinois. Donc, est-ce que vous pensez que ce type de projet de développement doit vraiment être réalisé et pris d'une manière tout à fait ordinaire et normale, ou est-ce qu'on doit éviter cela?
Le mieux pour moi, c'est de pouvoir éviter cela. Parce que
mais pourquoi?
Je ne suis pas contre en réalité les projets. Mais en réalité, moi je dis, j'ai appris quelque chose depuis l'enfance jusque-là, c'est qu'il n'y a jamais de gratuité. Là où on vous dit que l'argent coule à flot, prenez le panier, allez en chercher, lui assurer, c'est que derrière cela, il y a du leurre. Parce que ces aides, en réalité, ne sont que de la farce. Ce sont juste des aides à titre figuratif qui cachent en réalité des intérêts, en tout cas en retour du pays qui aide, des intérêts qui ne sont pas nécessairement affichés en face, au vu de tous, en face du monde. Vous voyez? Donc en réalité, parce que ça nous désavantage d'une manière ou d'une autre, à la longue ou encore dans nos politiques de gestion, où on est obligé, vous savez, quand vous êtes même dans votre petite famille, où vous êtes obligé de vous lever chaque matin, attendre la main à quelqu'un avant de manger, vous êtes obligé de subir des caprices venant de cette personne juste parce que vous savez que c'est de cette personne en question que vous vivez.
Naturellement. Un grand merci, ouais. Prosper. Donc,
Le mieux, c'est de pouvoir s'en passer et être véritablement soi-même. Et comme ça, on pourra se développer.
Un grand merci, Prosper. On va avoir Alphonse donc en ligne, Alphonse Mbouaki qui est en République démocratique du Congo. Il a écrit sur notre Facebook: le paternalisme financier occidental maintient l'Afrique dans un état d'enfant, de mineur qui ne grandit jamais. Alphonse, à vous la parole pour élargir votre propos.
Madame, vous savez que la dépendance, c'est un mouvement esclave, rend l'Afrique esclave, admire l'Afrique, et puis soumet l'Afrique aux dictats extérieurs. Et donc, l'Afrique a besoin de se prendre en charge elle-même pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Cela n'exclut pas qu'il y ait aide, qu'il y ait
soutien comme de, financement pour le développement de l'Afrique, mais que cela ne vise pas d'autres agendas. L'Europe ou l'Occident nous aide l'Afrique d'une manière transparente, pas arrière-pensée. Je pense que cela n'est pas exclu. Mais lorsqu'on nous aide avec d'autres intérêts, je pense que l'Afrique ne peut pas accepter cela. Parce que l'Afrique a besoin de sa souveraineté. Je ne vois pas que l'Asie dépende du financement extérieur. Alors l'Afrique aussi peut emboîter les pas. L'Asie est assez rapide. Paul Kagame en a parlé lorsqu'il est devenu président de l'Union africaine. Il a dit qu'il fallait prélever, si je m'abuse, 2% ou quelque chose comme ça, des taxes d'importation des produits africains, des Africains. Alors, c'est cela dans les soucis à pouvoir répondre à des besoins de l'Union africaine, par exemple le besoin de sécurité. Il ne faut pas toujours attendre l'Europe, il ne faut pas toujours attendre l'Occident. Si nous devenons indépendants, je pense que nous n'aurons pas à subir les dictats extérieurs, nous n'aurons pas à subir la colonisation.
Un grand merci, Alphonse. Très bien, un grand merci. On a d'autres auditeurs en ligne. Je voudrais donner la parole à Steve Bocco qui attend depuis un moment au téléphone. Pardonnez-nous, Steve, on vous écoute.
Oui, bonsoir, madame la journaliste.
À vous la parole.
Oui, pour moi, je vois que, sincèrement, pour abolir, tendre la main aux Occidentaux, je pense que cela ne peut être effectif en Afrique. Hein, parce que depuis lors, nous constatons que, si on prend le cas même des résistants, c'est manque de cohésion sociale et même de cohésion sociale qui est même fait qu'ils se sont fait coloniser. Vous voyez, donc l'Afrique, dès que nous ne nous mettons pas ensemble, nous constaterons toujours cela. Même les dirigeants même qui sont là, qui tendent plutôt la main aujourd'hui, le moment ils n'étaient pas au pouvoir, ils avaient même langage que nous. Mais dès qu'ils accèdent à la magistrature, on les impose forcément de prendre ses sous. Ils ne sont pas obligés, mais on les impose. Pour que le pays soit développé, ils sont obligés de les prendre. Donc, en un mot, il doit falloir que l'Union africaine doit essayer. Alors, vous me recevez ?
Oui, absolument. Absolument. Je vous écoute beaucoup, Steve. Et j'écoute aussi l'arrière-fond, j'entends. Il me semble des chèvres qui sont en arrière-fond parce que moi j'aime beaucoup ces bruits-là. Est-ce que vous êtes dans une ferme?
Non. Je disais tantôt que les dirigeants, dès qu'ils ne sont encore accédés à la magistrature, ils essaient d'avoir la même vision que nous actuellement, que nous vous disons. Mais dès qu'ils accèdent, on les impose à prendre ces sous pour pouvoir faire développer leur pays. Donc en un mot, je conseillerais ces mêmes dirigeants qui sont dans l'Union africaine de s'acquitter de leurs cotisations pour faire sortir l'Afrique de son état de sous-développement. Sans que les gens ne s'acquittent pas de leurs cotisations qu'on les impose, nous constaterons toujours qu'ils tendront toujours les mains aux Occidentaux. Et que c'est aberrant, l'Afrique ne peut connaître son essor à l'issue à l'issue de ces fonds dont les Occidentaux nous octroient. Vous voyez, donc en un mot, c'est seul l'acquisition de ces sous, de leurs cotisations, qui peut aussi donner un ouf de soulagement à certains pays africains d'être véritablement autonomes.
Un grand merci, Steve, pour votre témoignage. On a Mariam Koulibaly en ligne. Bonsoir, Mariam.
Oui, Kia, bonsoir.
C'est un plaisir de vous entendre, et en particulier parce que vous êtes une dame. On vous donne la parole, on vous écoute.
Et qui à l'Afrique détient des grandes écoles qui peuvent former des ingénieurs, des professeurs, des docteurs, tout ce que les gens vont en Europe pour étudier. Il y a tout ça en Afrique. Ces techniciens qui viennent ici, ces cadres qui viennent ici pour travailler, pour faire développer l'Afrique. L'Afrique a tout ça. Seulement, ce qui fait défaut, c'est l'argent. Et cet argent, ce sont les dirigeants africains qui ne veulent pas faire sortir de l'argent pour développer l'Afrique. Pour moi, c'est ça.
Est-ce que vous pensez que c'est cette fuite des cerveaux qui serait une des principales responsables de la situation de l'Afrique, des populations qui vivent encore dans la pauvreté notamment?
Non, c'est pas ça, parce que l'Afrique détient tous ces gens qui sont là, ils sont formés, mais seulement c'est parce que les dirigeants africains, ils veulent pas faire sortir l'argent pour développer l'Afrique.
Ils veulent pas investir.
En Europe, ils rencontrent des présidents, mais ils n'ont pas les financements. Ils veulent pas avoir les financements pour faire. Rien que le soleil africain, si l'Afrique fait travailler son soleil, tout le monde va avoir l'électricité. Mmh. Rien que ça.
Merci beaucoup, Mariam. Un grand merci pour votre participation. On a un autre auditeur en ligne. Youssouf Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de VOA Afrique.
Alors, votre point de vue sur cette question, Youssouf?
Alors, moi, je tiens d'abord à saluer la pertinence de l'intervention de Mariam, qui, quand même, fait honneur à toutes les femmes branchées sur cette radio de référence. Alors, la vulnérabilité, n'est-ce pas, de l'Afrique devant des dons extérieurs reste, ma foi, la preuve de la problématique même de la philosophie de l'opérationnalité de la force du G5 Sahel. Alors, si l'Afrique décide d'une réception aveugle, si j'ose dire, de toute aide financière pour ses besoins aussi bien sécuritaire que social, sans en déterminer les clauses et de façon transparente, je pense qu'elle devrait aussi s'attendre à ce que l'extérieur interfère dans les objectifs à atteindre par cette force, comme l'ont été les autres forces internationales déployées au Mali, notamment autour de Gao et Tombouctou et j'en passe. Alors, dans une région où l'efficacité même des forces comme la MISMA, la MINUSMA ou encore Barkhane est mise à rude épreuve, voire des échecs qui ne s'avouent pas, à l'exception près, au regard même des impasses politiques et sociales, je pense que, ou aussi même le développement taillé sur mesure égoïste dans les pays pourvoyeurs des troupes de la dite force, il ne peut y avoir de chance de succès d'une pareille mission sans une réelle caution morale. Alors, au-delà donc de s'enfoncer au fil des années au gré des directives extérieures dans cette guerre importée qui n'est pas forcément celle de l'Afrique, je pense qu'il y a lieu pour l'Afrique quand même et les Africains de ne point se tromper d'objectif.
Oula, en plus clair, très 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 rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que les dons étrangers, les financements étrangers sont le bienvenu en Afrique ou est-ce que vous pensez qu'il faut changer cela très rapidement parce que je voudrais prendre un autre auditeur. Une réponse, oui ou non, une réponse brève.
Nathalie, moi je sais qu'on ne peut pas se plaire des financements conditionnés par la domination des mesures voire impérialistes et derrière se jouer les intègres indépendantistes lorsqu'on est frappé par des positions contraires à la vision de la pensée unique avec le terme du genre ingérence. C'est impossible. C'est à l'Afrique de développer ses mécanismes de financement de ses propres objectifs et non sans forcément l'aide venue d'extérieur.
Un grand merci, un très grand merci. On prend un dernier auditeur. On a Dave Yacoumbo. Allô, allô, bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir.
À vous la parole.
Oui, je suis un petit peu déçu lorsqu'on j'entends certains auditeurs s'en prennent au pays colonisateur. Le pays colonisateur n'impose pas le plan de développement dans nos États. La plupart des chefs d'État qui arrivent aux affaires, en fait, ils promettent tout ce qu'il faut pour essayer d'améliorer les conditions de vie des différentes de leur population. Malheureusement, une fois arrivé aux affaires, on a comme impression que son agenda passe à côté. Ce n'est pas l'extérieur d'un le pays colonisateur qui impose le plan de développement. Nous avons en Afrique des sous-sols riches en pétrole.
Vous voulez dire l'ex-pays colonisateur, soyons clairs tout de même. Vous voulez dire l'ex-pays colonisateur, c'est ça que vous voulez dire?
Absolument.
Voilà, très
donc,
rapidement.
Nous avons nous-mêmes le droit de prendre le développement de nos pays nous-mêmes en main parce que tout cela rentre dans le cadre de la volonté politique. Il faudrait que nos dirigeants et d'abord la vision de faire quelque chose pour son pays.
Un grand merci pour votre témoignage à tous. Un grand merci à Firmin, Max Koyaweda et à Michel Joseph à la production ainsi que Dan Crafton à la production. Le plus grand des merci, bien entendu, à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. On poursuit les émissions sur La Voix de l'Amérique avec Raïssa Girondin qui vous présente Le Monde aujourd'hui. Très bon week-end à toutes et à tous.